Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Il y a des voix qui s'élèvent là, pour demander qu'on donne plus de temps aux victimes d'agressions sexuelles dans les causes qui mettent en cause justement des pédophiles dans le clergé. On sait qu'au Québec, il y a beaucoup de gens, il y a eu des recours collectifs d'ailleurs là-dessus, il y en a encore des recours collectifs et ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est-à-dire le temps que vous avez pour porter plainte. En matière criminelle, il n'y en a pas de délai de prescription, mais au civil, il y a encore un délai de prescription. Et ce qui fait que c'est 30 ans, vous allez dire 30 ans, tu as le temps de te virer de bord puis de porter plainte. C'est fascinant de voir que ça prend extrêmement... Il faut beaucoup y réfléchir, il faut y penser. Puis des fois, c'est en moyenne, là, on parle de 35 ans à une victime de pédophile pour sortir et porter plainte officiellement. Alors, cette histoire qui sort ces jours-ci, parce qu'il y a des hauts dirigeants de l'Église du Québec qui commencent à dire qu'ils seraient peut-être pas contre l'idée qu'on efface, qu'on enlève ce délai de prescription qui est fixé à 30 ans, puis qu'on fasse comme aux criminels. Et je trouvais que c'était intéressant, ça a été un petit encart dans les journaux, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, entre autres avec Alain Pronkine, qui est notre chroniqueur des affaires religieuses chez nous, 98.5. Bonjour Alain.
Bonjour Isabelle.
Et Sébastien Richard, qui est porte-parole des victimes des religieux de Sainte-Croix, porte-parole du regroupement des organismes et personnalités en faveur de l'abolition du délai de prescription. Bonjour Sébastien.
Bonjour Isabelle.
Je parlais de recours, justement, vous êtes une des 206 victimes qui ont été indemnisées à la suite du premier recours en 2009-2013. Ça a pris 4 ans quand même. Vous étiez d'ailleurs la semaine dernière en Cour suprême pour un autre recours. Et c'est quel père là, dont on parle déjà?
Bien, c'est un deuxième recours contre les religieux de Sainte-Croix parce que le premier recours visait 3 institutions, Collège Notre-Dame, Collège de Saint-Césaire et puis l'école primaire Notre-Dame de Poinégamouc. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'autres victimes qui sont manifestées, notamment des victimes à l'oratoire Saint-Joseph. Et donc, il fallait... comme le recours avait été autorisé, il fallait en initier un deuxième pour être capable de rassembler les victimes des autres institutions.
Donc là, on parle de combien de personnes en ce moment dans ce deuxième recours contre les Frères de Sainte-Croix au Québec?
Écoutez, j'ai envie de vous dire que compte tenu de l'acharnement avec lequel les Sainte-Croix se battent pour éviter qu'il y ait un recours collectif, me laisse croire que ça leur coûterait extrêmement cher. Parce que regardez, Collège Saint-Laurent, c'est l'ancien Collège des Pères de Sainte-Croix. Le Cégep Maisonneuve, c'est l'ancien externat classique Sainte-Croix. Dans Schlager Maisonneuve et dans Notre-Dame, dans Côte-des-Neiges, il y a beaucoup d'écoles primaires. Il y a Boscoville, il y a des orphelinats à Waterville, en Estrie. Il y en avait aussi dans les Laurentides. C'est immense, la congrégation. Et l'oratoire Saint-Joseph, bien entendu.
Donc on parle de combien de victimes?
Regardez, je ne suis même pas capable de mettre un chiffre, tellement le potentiel est élevé. Mais moi, je vous assure que les Sainte-Croix ont très, très peur à la survie financière pour la province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix avec ce deuxième recours-là.
Ah oui. Alain Pronkine, explique-nous un peu ce que ça changerait, le délai de prescription. Parce que là, on a vu cette semaine, il y a le pape qui a fait des commentaires comme quoi il était ouvert à l'idée là, qu'on en enlève, là, qu'on n'en ait pas de délai de prescription, finalement. Tu veux porter plainte, bien, tu as tout le temps pour y penser que tu veux, 35 ans, 40 ans. Ça fait longtemps, mais c'est ça pareil, la réalité. C'est Sébastien qui me disait que c'était 35 ans en moyenne avant qu'une victime porte plainte. Il y a Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui s'est dit aussi ouvert à l'idée. Le cardinal de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, qui a dit qu'il ne s'y opposerait pas. On sent qu'il y a un mouvement au Québec.
Oui, mais le mouvement est beaucoup plus vaste parce que les victimes d'agressions sexuelles ne sont pas juste au niveau de l'Église, mais sont dans plusieurs domaines. Et je pense que, comme société, c'est important que toutes les victimes d'agressions sexuelles puissent prendre le temps qu'elles ont besoin avant de prendre un recours civil, tout comme ils l'ont au niveau du droit criminel. Mais au niveau religieux...
T'as raison, ça toucherait tout le monde, là, finalement.
Tout le monde, et c'est essentiel, quant à moi. Une victime est une victime.
Ouais.
Maintenant, au niveau religieux, on sait que... On va dire, au niveau religieux, il y a 3 juridictions. La criminelle, que l'on connaît, ça va très bien. Mm-hmm. Le civil avec le fameux 30 ans pour poursuivre. Et la troisième, c'est au niveau du code canonique, au niveau du droit qui touche l'ensemble des religieux. Ça veut dire que si un religieux agresse physiquement un enfant, il y a des recours aussi au niveau du code canonique, au niveau de l'Église comme telle. Et à ce niveau-là, maintenant, actuellement, on est à une prescription de 20 ans à partir de l'âge de la majorité de la victime. Et ça, c'est...
Ah oui?
Oui. Avant, ça veut dire avant Jean-Paul II, parce que c'est Jean-Paul II qui a décidé de modifier ça, c'était 5 ans à partir de l'agression. Donc, au niveau des religieux, disons qu'un enfant de 7 ans se faisait agresser, si à 12 ans, il n'y avait pas eu de recours canonique, là, on oublie le droit civil puis le droit criminel, là, il perdait ses recours. Jean-Paul II a dit... Il faut monter ça. Donc, Jean-Paul II l'a monté à 10 ans à partir de la majorité et Benoît XVI l'a monté à 20 ans à compter de la majorité. Et même dans certains cas où on parle d'un récidivisme multiple, à ce moment-là, il n'y a pas de prescription. Donc, même au niveau de l'Église, on reconnaît qu'il faut que les victimes aient tout le loisir, tout le temps avant de prendre le recours. Il y a un bémol, une difficulté, mais là, il va falloir engager des spécialistes en droit canon et en droit. Est-ce que si on décide aujourd'hui qu'il n'y a plus de prescription, ouais, est-ce que c'est rétroactif aux victimes des années 50 et 60 et 70 ou est-ce que ça va être à partir d'aujourd'hui, ben, il n'y a plus de prescription?
Non, qu'est-ce que t'en penses, toi qui connais bien l'Église? Là, et...
Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a des gros débats sur la rétroactivité. Ouais. Et moi, ce qui serait important, mais je ne sais pas si on peut le faire, je n'ai pas un certificat en droit canonique, il faudrait que ça soit...
Rétroactif,
parce que, soyons logiques, les agressions sont multiples dans les années 50, 60
mais
et
comme
70.
Disait Sébastien Richard, vous disiez, ça leur coûterait tellement cher. Il y a beaucoup d'argent à la clé, là. Parce qu'il y a beaucoup de victimes aussi. Qu'est-ce que ça changerait pour les victimes au Québec d'agressions sexuelles que ce délai de prescription au civil tombe?
Je me permets mise en contexte. Le délai de prescription qui est passé en 2012 à 30 ans, c'est pour les gens qui se font agresser à partir du moment où cette loi-là a été adaptée. Donc, tous ceux qui ont été agressés avant, c'est l'ancien délai de 3 ans qui s'applique.
Ah, ouais.
Alors, effectivement, il y a un avis qui a été rendu public par le protecteur du citoyen en décembre de l'an dernier, en 2017, où le protecteur se déclarait tout à fait d'accord avec nos revendications, c'est-à-dire le fait que oui, il y ait prescription, parce que pour les gens qui se sont vus refuser l'accès aux tribunaux pour la seule raison du délai de prescription, le protecteur du citoyen recommande qu'il y ait que ces gens-là puissent recommencer leur procès et puissent effectivement avoir accès à la justice. Fondamentalement, là, c'est une question d'accès à la justice. C'est ça qui est à la base de tout ça. Et je veux juste dire une dernière chose. Dans le deuxième recours collectif qu'on tente de mettre sur pied contre les Sainte-Croix, la moyenne d'âge des victimes, là, c'est de 80 ans. Alors, imaginez-vous le temps de silence que ces gens-là ont. On n'est même pas proche du 35 ans, qui est la littérature scientifique. Dans le premier recours contre les Sainte-Croix, les 206 victimes, la moyenne, c'était de 43 ans. Donc, vous voyez, ce ne serait vraiment pas difficile de faire monter cette moyenne-là pourvu qu'on soit en mesure de mieux le documenter.
Fait qu'à 80 ans, quand tu portes plainte, là, c'est pas pour l'argent, là.
C'est pas pour l'argent. C'est clairement pour regagner son estime, sa dignité et peut-être même aussi pour commencer à entreprendre une thérapie pour voir comment est-ce qu'on a élevé ses propres enfants puis comment est-ce qu'on
agit. En paix aussi.
Ou pour mourir en paix, ne serait-ce que ça, ce serait déjà énorme.
Wow, c'est incroyable. Vous dites même, Sébastien, le délai de prescription, c'est comme une politique d'assurance pour les agresseurs. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un agresseur se trouve à avoir une mesure objective dans un texte de loi qui lui dit passer telle date, il passe go puis il réclame 200 $. Alors, ça ne peut pas
fonctionner. Il est comme protégé, finalement.
Il est définitivement protégé. Ouais. C'est pour ça que c'est extrêmement grave comme situation. Puis je veux aussi dire une chose. On parlait des femmes tout à l'heure. Mm. Dans notre regroupement pour l'abolition du délai de prescription, il y a le regroupement québécois des CALAC, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Il y a le regroupement des organismes espaces. Ce sont des organismes qui sont pour les femmes et qui sont extrêmement sensibles à la notion du délai de prescription parce que dans des cas de violence conjugale, il y a aussi cette problématique d'être capable de dévoiler, de dénoncer son agresseur qui très souvent est son conjoint ou le père de ses enfants. C'est pas facile ça non plus. Alors, c'est, comme le disait Alain, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global que le seul fait des agressions sexuelles commises par les religieux.
Oui, tout à fait. J'ai envie qu'on aille à la pause tout de suite, si vous me permettez, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir nous appeler et témoigner de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui nous écoutent qui ont été victimes d'actes d'agressions sexuelles dans l'enfance ou même à l'âge adulte. Évidemment, on sait que quand ça t'arrive et que t'es mineur, que t'es jeune, c'est un poids énorme à porter. Et c'est difficile pour un adulte, imaginez pour un enfant. Et c'est cette espèce de silence avec lequel les victimes d'agressions sexuelles doivent vivre. Il y a un moment donné, ça devient trop lourd. Il y en a même...
On nous conditionne à ce silence-là.
Oui. Hein. En plus?
Ben oui.
Ouais.
C'est important de le savoir. Ben oui, parce que l'agresseur va dire, c'est ce que le mien m'a dit. Il dit, t'es tellement mature, t'es tellement quelqu'un d'exceptionnel. Si on en parlait, ils comprendraient pas. Donc, ils sont même manipulateurs, même dans leur façon de conditionner au silence.
Ouais, incroyable. Si vous voulez témoigner de ce que vous avez vécu et peut-être nous dire aussi ce que ça permettrait aux victimes de pédophiles de porter plainte, d'après vous, au civil, peu importe le délai, est-ce que d'après vous, c'est normal, que c'est juste une question de justice, d'équité, victime de pédophile, mais aussi tout autre cas d'agression sexuelle serait touché. Donc, donc au civil par ce délai de prescription qui n'existe pas d'ailleurs au criminel. 514-790-9850 et sans frais, 1-866-790-9850. La question qu'on pose ce matin et qui commence à faire du chemin même au sein du clergé québécois, c'est est-ce qu'il faut permettre aux victimes de pédophiles de porter plainte au civil, peu importe le délai? On parle de ces histoires qui touchent entre autres les religieux de Sainte-Croix et d'autres congrégations religieuses au Québec, bien sûr. Sébastien Richard est avec nous, il est porte-parole des victimes des religieux de Sainte-Croix, porte-parole du regroupement des organismes et personnalités en faveur de l'abolition du fameux délai de prescription dont on vous parle, qui toucherait d'ailleurs au civil toutes les victimes d'actes criminels sexuels, d'agressions sexuelles. On a Robert qui nous appelle. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour à vous.
On vous écoute. Est-ce que vous avez été vous-même victime d'un agresseur sexuel?
Oui, exactement, Madame Marichal. Ça m'est arrivé. Là, je suis rendu à 58 ans.
Oui.
Ça m'est arrivé, j'étais en troisième année à la paroisse Saint-Germain-de-Cousin.
Oui.
Le prêtre, il m'avait invité une couple de fois chez eux, puis il me donnait des biscuits puis du lait, puis il m'avait même demandé si je voulais devenir enfant de cœur.
Mm.
À ce moment-là, il avait commencé à me tripoter des enfants de main. Fait que ça, j'ai resté marqué, là, toute.
Avez-vous déjà porté plainte, Robert?
C'est arrivé, ça fait environ 3 mois. Il y avait un organisme j'avais entendu parler de ça à la radio ou dans les journaux, quelque chose comme ça.
Mm-hmm.
J'ai téléphoné, ils m'ont dit si ça m'avait affecté au niveau psychologique, de là à avoir des tentatives style de suicide. Je dis non, absolument pas. Sauf que j'ai dit ça me comme je l'ai toujours dans la tête, le kit depuis mon enfance. Puis à ce moment-là, il a mis fin à la conversation.
Vous avez porté ça pendant 50 ans, vous le portez encore aujourd'hui.
Oui,
mais ce qu'on vous a
madame.
Dit, en fait, c'est que si vous n'êtes pas capable de prouver que vous avez des séquelles, vous pouvez pas vraiment porter plainte, c'est un peu ce qu'on
exactement,
vous a dit?
Exactement, c'est après ça. Il a vu que j'étais pas tellement comme affecté,
ouais.
Peut-être psychologiquement, sauf que ça m'est quand même arrivé. Je pensais le fait de dénoncer, là, je me suis dit, c'est sûr que probablement le monsieur en tant que tel, le prêtre, il est plus prêtre, là, parce que on s'entend-tu que ça fait quand même 50 ans, si c'était en quarantaine, il est probablement décédé.
Ouais.
Fait que, exactement.
Wow. Et vous dites, vous y pensez tous les jours encore?
Ah oui, oui, exactement. Ah oui, j'ai eu même des, je me suis fait dire là, que j'avais comme des tendances un peu comme moumoune ou quelque chose au moins. Fait que parce que j'étais gentil avec le monde, fait que j'ai toujours pensé que ça venait probablement de là, le fait de qu'il m'ait abusé ou quelque chose là, ben à ce moment-là que c'est pour ça que j'avais probablement des tendances
homosexuelles,
d'être
vous
gentil.
Dire?
Ouais. Non, peut-être pas homosexuel, mais gentil avec le monde, puis d'être poli et tout le kit. Fait que il y en a beaucoup qui pensent même que je le suis aujourd'hui, là, tu sais.
Mm-hmm, mm-hmm. Merci, Robert. Mais écoutez, je vais demander à Sébastien Richard, est-ce qu'il faut absolument être capable de prouver qu'on a des séquelles extrêmement importantes pour porter plainte? Ou le fait seul d'avoir été abusé?
Au criminel, le problème, c'est que c'est la preuve hors de tout doute raisonnable, n'est-ce pas? Alors, dans ces conditions-là, si hors de tout doute raisonnable, il faut qu'on soit capable de trouver des témoins. Or, généralement, les agressions, ça se fait dans l'intimité d'une chambre à coucher, très souvent. Mais ce qui est important, cependant, c'est qu'au-delà de la démarche juridique, il est important, puis j'espère que monsieur va le faire, c'est qu'il y a des organismes qui existent pour venir en aide à des gens comme ça. Le CRIFAS,
oui.
Le Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance, c'est un organisme montréalais que j'ai personnellement présidé pendant 3 ans. La compétence de l'équipe d'intervenants qui est reconnue partout au Québec. Là. Et si vous êtes à Québec, il y a Autonomie, en phase à Trois-Rivières, il y a aussi le réseau pour hommes de la Haute-Yamaska à Granby, il y a le Chaz-Estrie à Sherbrooke. Alors donc, il y en a un certain nombre d'organismes, malheureusement pas dans toutes les régions, mais c'est important qu'au-delà de la démarche juridique, ces gens-là aillent chercher de l'aide pour être capables de faire la paix en eux. Lorsque monsieur dit, par exemple, qu'il est peut-être un peu trop gentil ou un peu moumoune à cause du fait qu'il a été agressé, ça démontre à quel point le fait d'être agressé sexuellement a beaucoup d'impact sur notre identité.
C'est
comment
sûr.
Est-ce qu'on se définit à partir de ce moment-là?
Ouais.
Quel impact est-ce que ça a eu? Et très souvent, c'est exagéré, cet aspect-là, parce qu'on est ce qu'on est à la base. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en avait des gens qui étaient gays dans le recours collectif contre des Sainte-Croix. Ils se sont tous demandé, est-ce que je suis gay à cause de ça?
Ouais.
Et tous, lorsqu'on en parlait, disaient, non, je suis comme ça. Donc, monsieur, s'il est gentil et serviable, il n'y a pas besoin de porter la lourdeur des actes commis par son agresseur pour se définir lui-même.
Oui, exactement, c'est un bon point. Rachel est avec nous. Bonjour, Rachel. Je pense que vous avez découvert il n'y a pas longtemps que votre père avait été agressé sexuellement.
Et effectivement, là, en termes d'agression, il faut que je fasse attention à mes propos, là. C'est-à-dire que lors d'une réunion de famille, on a commencé à parler de parce que ça se parle beaucoup dans les médias, puis c'est venu sur le sujet, puis mon père fait de la démence et tout ça, puis c'est venu sur le sujet, mais là, il montrait même des gestes et tout ça, là, fait que moi, ça m'a estomaqué, puis je me disais, comment ça, à l'âge de 78 ans, que là, ça sort. Puis, il a pas voulu poursuivre la discussion, il dit, je veux pas en parler, fait qu'il y avait encore des blessures profondes, puis, tu sais, ça me touche, tu sais, je me dis, je fais quoi avec ça, là, tu sais, on est un peu, vous avez répondu un peu à mes questions, là, au niveau des démarches et tout ça. Puis heureusement qu'il existe des organismes.
Ouais.
Mais je me dis, lui, il a caché ça parce qu'à l'époque, là, donc je suis d'accord avec enlever le délai de prescription. Ces générations-là, là, ils ne devaient pas parler. Il y avait des représailles, il y avait peur, c'était tabou. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de recours. Puis là, après ça, la vie suit son cours. Puis on tente d'oublier. Puis on veut pas en parler parce que ça nous remémore beaucoup de peine, mais je trouve ça triste qu'il y ait des délais justement là aujourd'hui. De nos jours, il y a les médias, il y a plus d'informations qui circulent. Les gens disent « Ah ben finalement, je peux avoir droit à des recours. » Fait que je trouve ça dommage que...
Mais il y a encore...
Des délais de prescription.
Vous avez raison, Rachel, puis merci de votre témoignage. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent « Mais voyons, c'est bien, tu sais, si t'as été agressé, t'as juste, tu sais, pourquoi ça te prendrait 35 ou 40 ans? » Il y a encore un peu de cette incompréhension-là, Sébastien.
C'est parce que 90 % des victimes ont été agressées par des gens qu'ils connaissent. Alors, ça signifie qu'on fait très souvent, dans certains cas, il y a des gens qui ont été agressés par leur père, par leur mère, par des oncles. Et là, à ce moment-là, on leur fait porter le poids de démanteler la famille en prenant la parole. Donc, les incitatifs à rester silencieux sont extrêmement puissants.
Ouais. Paul, bonjour. Vous avez été agressé vous-même. Êtes-vous resté silencieux longtemps?
Oui, jusqu'à l'âge de 53 ans. J'avais 12 ans au moment des agressions.
Mm-hmm.
Puis, c'est effectivement, c'était fait par des membres du clergé qui étaient en position de... Moi, j'étais dans un collège privé. Puis, on n'avait pas le droit. Écoute, c'était de la manipulation pure et simple, là. Moi, mes parents étaient très religieux. Puis, c'était comme, il fallait pas en parler à la maison parce que c'était comme une honte totale de, vis-à-vis de la famille, là.
C'est incroyable que ça soit perçu comme ça. 41 ans de silence. Avez-vous fini par porter plainte, Paul?
Oui, tout à fait. En 2016, là, il y a un recours collectif qui est en marche.
Ouais.
Sauf que ce que je trouve un peu dommage à ce niveau-là, c'est que moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'étant donné que le principal agresseur est décédé en 2003, que j'étais possiblement exclu du recours, puis ça, c'est ça qui est le plus difficile, d'avoir ressorti tout ça.
Ça me surprend, ça.
C'est ce qu'on vous a dit, vous êtes sûr de ça, là, Paul? On vous a dit probablement.
Oui, il est décédé, c'est parce qu'on m'a dit qu'il attendait après une...
C'est avec quelle congrégation? Quelle congrégation?
C'est les Frères du Sacré-Cœur.
Frères du Sacré-Cœur à Granby. En tout cas, moi, je vous incite à vous tenir debout parce que moi, je peux vous dire que dans le recours contre les Saintes-Croix, il y en a plusieurs victimes qui ont été indemnisées, dont les agresseurs étaient décédés. Là, parce qu'il est démontré devant les tribunaux que les communautés religieuses savaient que ça se faisait.
Donc, il y a une responsabilité.
Absolument.
Là.
C'est tout à fait...
Mais là, je ne sais pas votre bout, Paul. Sincèrement, là, je sais pas votre bout.
Sûrement pas. C'est en cours. On attend. Il y a un jugement actuellement qui est en cours, ce qu'on m'a dit là, avec les avocats. C'est qu'ils attendent après ce jugement-là pour voir comment ça va se poursuivre, s'il y a jurisprudence ou non.
Il y a le regroupement des organismes et personnalités en faveur de l'abolition du délai de prescription aussi, dont Sébastien Richard, mon invité, est porte-parole, qui peut certainement également vous guider. Merci beaucoup. Bon courage, Paul. Alain Pronkin, une conclusion?
Il y a quelque chose qui est aussi très important. Les victimes ont toujours été extrêmement mal reçues par les autorités religieuses. Et il y a même un évêque de Hamilton qui a dit « Oui, j'ai mal reçu, j'ai recevé d'une façon froide parce que je protégeais plus l'Église que les victimes. » Donc, les victimes avaient tout contre eux autres. Il y avait le contexte social de la famille et il y avait aussi le clergé qui avait une certaine sacralité qui les recevait mal. Et ces gens-là, malgré tout, doivent se battre aujourd'hui pour faire reconnaître leurs droits. Et ce qu'on note, c'est que les agressions, ce n'est pas une chose du passé, c'est encore présent. Il y a deux prêtres qui viennent de se suicider en France, qui avaient 38 ans, motif, il y avait des allégations d'attouchement sexuel sur des enfants mineurs. Le problème n'est pas réglé. Tu as des cardinaux comme Duke qui ont dit... il y a un paquet de prêtres qui ont des problèmes de sexualité non résolus et qui deviennent prêtres. Et même l'Assemblée des évêques du Canada vient de dire, ben il faut s'occuper de la formation des futurs prêtres et vérifier aussi leur maturité, on va dire, sexuelle, pour être poli.
Incroyable. C'est une histoire qu'on suit parce que c'est intéressant de donner des outils aux victimes de ces agresseurs. Merci beaucoup, Alain Pronkin, d'avoir pris le temps de nous parler. Sébastien Richard, merci.
Merci beaucoup.
Et on rappelle donc, si les gens veulent porter plainte, vous êtes là pour les aider. Il y a également plein d'organismes. Vous savez que vous êtes en mesure de réécouter notre émission en différé en allant sur notre site Internet. Comme ça, vous pourrez revoir les numéros, les noms surtout pour rejoindre ces organismes-là. Merci beaucoup, Sébastien Richard.
Merci à vous.
On va s'arrêter ici. Très courte pause tout de suite après. Nous avons le grand plaisir, le grand bonheur de recevoir l'animateur français Michel Drucker. Il vient de publier chez Robert Laffont « Il faut du temps pour rester jeune ». Une chose est sûre, c'est qu'on veut manger ce que Michel Drucker mange parce qu'il a la pêche, il pète le feu, comme on dit chez nous. À tout de suite, tout le monde, avec Michel.